Henri du Vernois, Le Revenant. La maison ravillarde, maroquinerie de luxe, comptait dans l'aristocratie commerciale des boulevards. Les boutiques clinquantes avaient pu s'ouvrir, qui resplendissaient la nuit de tous leurs feux électriques. Les enseignes lumineuses s'étaient multipliées, rouges, bleues, vertes, ici fixe, là clignotante ou éclipse. Magasin dont l'enseigne discrète portait au levant, comme en 1857, date de la fondation, demeurait tel qu'on avait pu l'admirer sous le Second Empire. De modestes ampoules s'y jetaient pas beaucoup plus de lumière que les lampes de jadis. Les objets d'art étaient restés à peu près les mêmes, et la boutique, embellie de casiers et de solides comptoirs en chêne massif, sentait bon l'encaustique et le cuir. Là s'était installé en 1857 Auguste Casimir Ravillande, fils de riche cultivateur. Il avait eu une jeunesse orageuse, coupée de fréquents voyages en pays lointains. Une petite photographie encastrée dans le chêne près de la caisse montrait le fondateur, bel homme aux favoris abondants, à la moustache retroussée, à la chevelure ondulée. Le type de ces calicots qui jouent aux militaires et faisaient donner les éperons sur le trottoir après avoir vendu de la toile ou de la cassonade. On l'appelait le beau veuf. Il comptait parmi ses clients des chroniqueurs illustres et des princes étrangers. Il était admis chez Tortoni à des fables tables flatteuses. Ce commerçant bien parisien mourut des suites d'un bon dîner. Alors son fils lui succéda, dont il avait voulu faire un homme de roi, mais qui ne concevait autre ambition que celle de compter interminablement sa recette. Le soir venu, et la devanture abaissée. D'un stage fort court chez un notaire, Jules Pavillande avait gardé une réserve de chafouré. On le voyait, vêtu de noir, cravaté de blanc, alignant des chiffres ou rédigeant des factures, tandis que sa femme, terne et distinguée, s'empressait auprès des acheteurs. À observer ceci pour supputer les bénéfices possibles, M. Jules Pavillan avait acquis le flair le plus sûr, l'art de décourager le mauvais client, voire le farceur, qui eut à s'abriter de la pluie. « Oh, nous n'avons pas ce qu'il vous faut !» tranchait-il. Ou bien « Oh, vous devriez aller voir ailleurs, c'est pas le genre de la maison !» Ou encore « Oh, nous ne voyons guère, nous ne vendons guère qu'à des habitués. Je regrette. » Sa femme disparut la première. Elle était frileuse et entretenait dans la boutique une chaleur de fournaise. Au retour du cimetière, le mari renseigna le garçon de magasin. « Il faudra voir à modérer le poil maintenant. » Dans un coin près de la caisse, bien caché, le petit Robert, fils unique de monsieur et de madame Parvillan, dévorait un livre. Un livre de voyage, presque toujours. Il s'interrompait pour ouvrir un cahier de dessin au crayon de couleur. Anthropophage, habillé de rouge, empenné de bleu, cactus et aloès d'un vert cruel, ciel romantique bouleversé de nuages noirs et d'éclairs jaunes. En vieillissant, Monsieur Jules Pavillon se ratatina et devint de plus en plus avare et despotique. Ne pouvait guère user de son autorité sur le jeune Robert, qui ne mettait de fantaisie que dans ses dessins et se montrait l'enfant le plus timide et le plus obéissant. Une vieille fille à chignon trop noir, l'unique vendeuse, attirait les foudres patronales pour sa seule passion qui était la gastronomie. Madame Gillot confectionnait son déjeuner et son dîner dans un coin de l'arrière-boutique. Et pendant de longues années, Robert fut témoin d'interminables discussions relatives à ses repas. Oh, mademoiselle Gillot, vous avez encore mangé les choux de Bruxelles? Ne niez pas, j'ai 100, hurlait monsieur Jules Pavillon. Il rédigea, en rondeur bâtarde, un memento donné à son employé et divisé en deux parties. Plat autorisé et plat interdit. Le beefsteak était autorisé, la côtelette interdite, les pommes de terre à l'eau étaient recommandées, les oignons défendus sous peine de renvoi immédiat. Toute l'astuce que mettent les autres femmes dans leurs amours, Mademoiselle Griot l'employait à cuisiner un mireton subreptice ou à faire passer pour une escalope encore un dollar une foie de veau à laisser. Elle corrigeait les relents de ses festins en s'inondant de verveine. Par bonheur, le parfum du cuir était presque toujours le plus fort, et Mademoiselle Guillot pouvait connaître de fins régals. À 17 ans, Robert cessa d'aller au collège et son père l'interrogea sur sa vocation. Oh, restez ici, répondit-il. Oh, les bénéfices ne s'accroissent pas, remarqua Monsieur Pavillon. C'est une existence bien casanière qui attend. Réfléchis encore. Une inspection des finances ne te paraît pas, ça te paraît pas? Vous les pots et chaussées, non? Bien vu, bien entendu. Alors soit, au levant, Robert Pavillon, successeur. Il logeait au 6e étage, occupant 3 petites pièces avec une terrasse assez large pour que Madame Pavillon y eût disposé une tonnelle. Ils avaient là, pendant la belle saison, un asile inattendu de verdure et de fleurs. Ils y restaient tard, rigurant le plus possible le moment de rentrer dans leur chambre où ils étouffaient. Monsieur Pavillon appelait ce coin leur Trouville. Et il devenait poétique pour célébrer devant son fils attentif les beautés d'un ciel pavé, fleuri d'étoiles, dans le grondement adouci du boulevard nocturne. Devenu grand, Robert sortit une fois par semaine, le samedi. Il comptait deux sages amis, des garçons économes, qui rognaient sur leur distraction. On se retrouvait vers 9 heures, on marchait jusqu'à épuisement, et on se permettait le luxe d'un verre de bière d'un petit cigare, dit señorita, que l'on fixait à bouffer, fumer, fait prudente. Ils adoptaient les quartiers froids et vertueux. Ne comptant pas 60 ans à eux trois, ils s'ingéniaient à copier leurs parents, à tenir des propos financiers ou politiques, et n'étant allés nulle part à sembler revenus de tout. C'était Gustave Albert, le fils du confiseur, Léon Cotillier, le fils du bijoutier, et Lucien Baldi, fils du chemisier. Lucien, le beau garçon de la bande, un colosse à l'éclatant sourire, pourvu d'une toison noire et bouclée, toujours en désordre, revers d'un blond lavasse, et qui paraissait chauve à 20 ans, contrastait, plein d'ennuyé d'amère boutique, à côté de ce géant. Mais il recherchait sa compagnie. Et même quand la chemiserie Babet est disparue, engloutie dans une liquidation judiciaire, c'était lui qui réunit les deux autres et leur proposa de continuer leur relation de leurs camarades, comme si de rien n'était. Le père et la mère de Babet durent accepter d'humbles exploits. Leur fils plaça des miniatures copiées de l'ancien, et Robert parvint même, après combien de supplications, à en faire déposer une douzaine dans la boutique du Levant. « Fantaisie, fantaisie, prends garde !» s'écriait M. Jules Pavillon. Comme il avait prévu, Babet mettait une note dangereuse dans ce quatuor de jeunes hommes rangés. Quand il leur annonça « Oh, papa est flambé, c'est la liquidation judiciaire !» ils le plaignirent. Mais quand il leur présenta dans un café d'Auteuil une petite amie, il les consterna. Non qu'ils fussent chastes, mais leurs amours restaient clandestines. Afficher, selon leur expression, une maîtresse, oh, leur paraissait choquant. Par bonheur, la petite était débutante dans un magasin de nouveautés. On put parler commerce devant elle, sans qu'elle restât trop étrangère au débat. Robert tint à régler toutes les consommations, en homme qui signifie « Bon, j'ai les moyens, moi !» Mais dehors, quand Lucien le quitta, quand ils virent s'éloigner un bras passé autour de la taille de sa maîtresse, ils restèrent plantés sur le trottoir, la mort dans l'âme. Et les plaisanteries qu'ils tentèrent sonnaient faux. Ils se retrouvèrent 3 ou 4 fois encore. Puis conseiller, piqué au jeu, ayant amené une grosse dame fardée qu'il prétendait imposer, les réunions se raréfièrent. À la fin, seuls Babeille et Proviland se virent. En été surtout quand on pouvait bavarder sur la petite terrasse. Robert confiait à son ami le soin de vivre toutes les aventures sentimentales qu'il redoutait pour lui-même. Il l'interrogeait, et l'autre plaisantait naïvement. Un jour, il leur dit « Fini, la gosse. Un grand poney. Ah, tu as pu. Oui, je suis maintenant avec une actrice. Et où joue-t-elle ? à droite et à gauche. Le lendemain, à 10 heures, Robert guettait la sortie de la débitrice. Elle le reconnut tout de suite. « Oh, monsieur Vaveland, vous m'attendiez ?»« Oui. »« Ah, c'est Lucien qui vous envoie ?»« Oui et non. »« Oui ou non ?»« Non. » Elle baissait la tête. Il ne vit pas qu'elle pleurait. J'agitais de dire « Je vous aime ». Alors il le fit, sans transition. Alors elle courut, il trotta pour la suivre, et il haletait. « Écoutez donc, j'ai voulu plaisanter, ne me mettez pas en colère, écoutez donc !» Il se sentit si grotesque qu'il s'arrêta. Et pendant de longs mois, il ne sortit plus. Il priait Barbet de le laisser en repos avec ses histoires. « Tu verras où ça te mènera. Moi, je veux me marier jeune. » À 30 ans, il était toujours sous la férule paternelle. Fumait en cachette l'après-midi et se lavait les dents ensuite pour n'être pas grondé. Il opposait aux jolies clientes une telle maussaderie que M. Jules Pavillon lui en fit l'observation. « Sois plus aimable. Elles s'habillent toutes comme des gourgandines, mais il y en a de très honnêtes dans le tas. » Robert desséchait de l'envie de se marier. Si gauche, il apprit à danser et courut les balles de société. Mais il voyait au levant trop de femmes élégantes pour ne pas établir de fâcheuses comparaisons avec les demoiselles qu'on lui proposait. « Tu as bien le temps, » répétait son père, « tu ne seras jamais plus chauve. Attends que j'ai disparu. Tu prendras tout l'appartement. » Monsieur Jules Pavilland mourait à petit feu, pudiquement, derrière son registre de comptabilité. Un matin, on le trouva abattu sur son registre et comme mortifié. Il laissait à son fils la propriété du Levant et 360 000 francs, dont 100 000 en or et en billets de banque. La boutique resta fermée 48 heures. Un peintre de lettres fignola sous Jules Vaveland les mots Robert Vaveland successeur. Et le successeur connut, dans son chagrin, une fierté consolante. Il invita Lucien à déjeuner et précisa « Oh, tu pourras venir tous les samedis !» Il épousa la première venue, si elle n'est ni trop laide ni trop maladroite, jugea Babet. « Oh, c'était un garçon généreux et comme un sauveteur professionnel. » Et il pensa tout de suite à une lointaine cousine qui cherchait une place de dactylographe. Bates savait Robert ombrageux, alors il convoqua sa cousine. « Ma petite Louise, si vous êtes intelligente, je peux vous assurer un avenir magnifique. » Et il lui expliqua qu'elle aurait à se présenter au patron du magasin Au Levant et lui demander s'il n'aurait pas par hasard besoin d'une vendeuse. Sans venir de ma part, vous entendez, sans dire que vous me connaissez. Il s'agit d'un type qui est très sur l'œil. Et je doute que si jamais il vous fait la cour, ce sera pour le bon motif, vous me comprenez. Vous êtes si gentil pour moi que je dois vous montrer franche. J'ai eu cinq amants. Pas un de plus, pas un de moins. Oh, six peut-être, en y réfléchissant, mais au grand maximum. Ce que vous êtes chic tout de même. Elle souriait, lui offrant sa récompense. Mais il resta très camarade. Alors elle prit l'air docile et sérieux d'une jeune fille qu'il est question de marier. Il la regardait. Oh, elle n'aurait pas de mal à triompher. Une très jolie brune, aux yeux caressants, à la bouche fine jusqu'à la minceur. Vous êtes ravissante, Louise. Taisez-vous donc, menteur. Vous ne m'avez jamais fait la cour. Mais vous êtes ma cousine, et j'ai le respect de la famille. Allez, maintenant, vous allez devenir la femme de mon ami. Oh, la femme, vous allez un peu vite. Je sais ce que je dis. Oh, il ne connaît pas grand-chose de la vie. Usez-en sans en abuser. Allez-y vers 9 h, quand il n'y a personne. Et vous prendrez la place tout de suite, j'en suis certain. Si l'autre place aussi. Allez, ne soyez pas méchante avec lui. Vous serez la femme la plus comblée. Par exemple, un mystère absolu. Et vos parents? Oh, Robert ne les voit jamais. Son père a rompu avec eux quand nous avons eu nos ennuis. Ah, ni rouge, ni poudre de riz. On tient à son bon genre. Et comme si vous pouvez vous procurer un costume de deuil, n'hésitez pas. Et il conclut avec une pointe d'émotion. Vous serez ma belle-sœur. Ah, mais par exemple, quand il nous présentera, gardez-vous de rigoler. Chapitre 2. Monsieur, vous n'auriez pas besoin d'une vendeuse par hasard? Robert leva les yeux et fut ébloui. Oh oui, peut-être. Quelle révérence! Elle put répondre ce qu'elle voulut. Il était bouleversé. Mademoiselle Gillot s'en aperçut, intervint et émit des objections. Mais mademoiselle ne connaît pas le métier. Mademoiselle est bien jeune. Qu'elle aggrava après le départ de Louise. C'est parce qu'il vous faut, monsieur Robert. Vous avez besoin de quelqu'un dans mon genre qui cadre avec le magasin. Cette personne serait mieux à sa place chez un confiseur, tenez, ou dans une parfumerie. Et tandis qu'elle parlait, Robert rédigeait de son côté un pneumatique. Monsieur Valudande présente ses civilités distinguées à Mademoiselle Louise Le Forget et la prie de venir demain matin à 8 h pour entente définitive. 8 jours après, Mademoiselle Gillot se retirait. Robert, installé à la place de son père, devant le registre, paraissait d'autant plus sévère qu'il était troublé. Quelques passants, séduits par la beauté de la jeune vendeuse, entrèrent incertains sur l'achat à effectuer. C'est, mademoiselle, faisait Robert, je vais m'occuper. Vous désirez? Elle riait sous cape. Ce petit bonhomme au crâne nu ne lui déplaisait pas. Elle avait 28 ans, et dans cette boutique confortable, un grand désir de responsabilité lui venait, et une paresse aussi. Elle avait fait sans joie de l'aventure des jeunes qui la bernaient, des vieux qui l'ennuyaient. Et là, elle serait bien, elle n'aurait qu'à se laisser vivre. Par exemple, elle se plaignit de la nourriture que lui apportait du bouillon voisin et qui arrivait tiède. Mais nous pourrions nous arranger autrement, proposa Robert, très ému, et qui vérifiait cette définition si juste. L'amour est un besoin de présence. Oui, je fermerai de midi à 1h30, comme c'est l'usage un peu partout. Et nous déjeunerons ensemble, là-haut, chez moi. Ce sera plus simple. Ça vous fera une petite augmentation, aucune pas dédaignée par le temps qui court. Elle eut la malice de faire attendre la réponse. Elle le fit, elle le vit si anxieux qu'elle eut pitié. Mais je vous remercie beaucoup, monsieur. J'accepte avec plaisir. Il confectionna l'écriteau, fermé de 12 heures à, et il inscrivit 13 heures. Le lendemain, il acheta des crevettes roses, du jambon de Parme, et pour le dessert, de ces fraises que l'on vend couchées dans l'ouate. Il versa dans une carafe une bouteille de précieux Château Yquem, et comme c'était le printemps, il fit dresser le couvert sur la terrasse. Il pensait, pourvu que tout cela ne l'effraie pas, elle semblait très douce, facilement effarouchée. N'aurait-il pas l'air d'abuser en goujat de ses prérogatives de patron? Mais non. D'ailleurs, il serait très correct. Il aurait la politesse d'attendre. Les heures lui parurent longues jusqu'à midi. Et au premier coup de l'horloge, il donna le signal du départ. Alors, mademoiselle, si vous voulez bien, le bec de canne retiré, l'écriteau placé bien en vue, ils sortirent, traversèrent la cour et gagnèrent une sorte d'escalier de service. C'était là les coulisses du commerce des boulevards. Des midinettes qui descendaient en se bousculant et en chantant les heurtèrent. Oh, pardon, monsieur et dame. Et Robert entendit l'une d'elles qui chuchotait. Dis donc, t'as vu? Il eut le cœur serré tout à coup, comme si monsieur Jules Pavillon allait apparaître solennel et désapprobateur. Tu vas déjeuner avec ton employé, oh, c'est du joli. Louise grimpait. Il s'essoufflait derrière elle, la gorge serrée d'émotion et de désir. Nous voilà au sixième. Je vais passer devant vous pour vous montrer le chemin. C'était compliqué. Un couloir obscur, suivi d'un couloir vitré, d'où l'on voyait un paysage de toits véritables. Oh! Jamais je ne m'y reconnaîtrai, remarqua Louise. Nous sommes arrivés. Et dès la porte ouverte, il s'excusa. Oh, il faudra que j'arrange un peu tout cela. Tout cela qui sentait le vieux et la poussière et l'abandon. Sur le piano, des partitions d'opérettes d'un jaune craquelant de feuilles mortes. Des opérettes oubliées depuis 30 ans, et le divan dont la tapisserie unique montrait la corde, et la suspension avec ses sirènes jadis argentées, maintenant rougeâtres. À droite, c'était, fermée à clef, la chambre de Monsieur Jules Pavillon, et à gauche, celle de Robert. Précipitamment remise en ordre, mais si laide avec son lit en pique-pain, chiche-pain, sa table lavabo. Seulement, cette chambre-là donnait sur la terrasse. Et là, Louise poussa un cri émerveillé. Oh, mais jamais je ne me serais douté. Sur Le boulevard. Un joli soleil de printemps, un peu de verdure tendre et frissonnante, et sur la petite table, deux couverts d'amoureux. Pour l'amour de cette terrasse, Louise mit une sorte d'ardeur dans sa déférence à l'égard de Robert. La femme de ménage les servit avec une hâte complice et disparut. Ils étaient seuls. Et comme il avait attendu cette minute-là, si pleine, si radieuse, qu'elle lui parut éternelle, la femme qu'il espérait était venue. Elle était là. Il resta devant elle, muet, les mains tremblantes comme un enfant devant un cadeau inespéré. Et bien que le vent fût assez aigre, Louise avait retiré sa jupette de serge noire et en blouse de lingerie transparente, elle lui paraissait presque nue dans l'intimité d'un tête-à-tête conjugal. Elle voulut se montrer bonne ménagère. Avec tout ce qui reste, on pourrait dîner. C'était pour fêter l'inauguration. Plus tard, nous aurons deux plats seulement. Ensuite, il faut travailler. Mais dites donc, mademoiselle, monsieur. Et déjà, ces termes cérémonieux leur paraissaient étranges, comme s'ils avaient voulu plaisanter, comme s'ils étaient unis depuis longtemps. J'ai une idée. Si nous dînions ensemble, à moins que je ne voudrais pas vous déranger. Elle faisait tourner machinalement sa cuillère dans sa tasse vide. Oh, mais monsieur, je suis seule et libre. Et elle lui livra sa confession avec un grand air de loyauté. Une enfance dorée, un père qui dissipait sa fortune au jeu et qui s'était tué, ruiné. Sa mère, recueillie chez une parente riche à titre de dame de compagnie, et elle-même, envoyée à 18 ans comme employée dans une maison d'accessoires pour automobile. Pas de relation. Les anciennes s'étaient détournées du malheur. Puis un drame. Son fiancé, et elle disait fiancé avec une petite hésitation, en baissant les paupières. Un artiste peintre du plus grand talent, devenu fou, mais fou allié et persécuté, et qui avait poursuivi le poignard en main, parce qu'il la tenait tout à coup pour l'instigatrice de ses pires ennemis. Et puis d'autres places, et toujours et partout, la solitude. Mais comment l'idée vous est-elle venue de vous présenter au Levant? Bon, je pense, enfin, j'ai eu comme une inspiration. Et vous ne regrettez pas? Oh non, monsieur, vous êtes si bon. Et la maroquinerie, c'est gentil. Il la plaignait, il l'admirait. Elle était adorable dans ce jeune soleil. Maintenant, vous savez tout de moi, monsieur Pavillon. Et comme si elle avait remarqué soudain que sa chemisette était transparente, elle remit en toute hâte sa jaquette et la boutonna. Eh bien, c'est très bien, balbutia Robert. C'est tout à fait bien, mademoiselle Louise. Oh, je comprends. Je sais comprendre les choses. Moi aussi, je suis seul. Il n'y a pas que le commerce. Un nigaud semblable a besoin d'être encouragé. Et comme il rentrait dans l'ombre de la petite chambre, Louise s'arrangea pour trébucher, pour qu'il la retînt et qu'il lui offrît sa bouche, en lui laissant croire qu'il l'avait prise. Si bien qu'après un sublime baiser, il bredouilla. Oh, je vous demande pardon. Elle gémit. C'est mal, monsieur Pavillon. Il la rassura. Non, non, je ne suis pas comme les autres, vous verrez. Il ajouta. Je vous aime. Elle lui prit la main, la serra avec force. Et vous? Demanda-t-il. Je vous aime. Encore un baiser, et elle conclut avec une timidité d'esclave. Vous ne ferez pas trop regretter, dites. Il se demanda, le long de cet après-midi d'attente fiévreuse, comment une petite boutique du boulevard pourrait loger un bonheur aussi formidable. Il exultait, faisait montre d'une activité débordante, d'une gaieté qu'il n'avait jamais connue. Et tout de suite, il promut son employé au grade de reine. Il l'installa à la caisse, à la place d'honneur. Elle serait là, comme un tableau, comme une œuvre d'art, qui menait dans le magasin pour un peu de la jeune lumière qui est là-haut, sur la terrasse. Oh, cet imbécile qui n'en finissait pas de vous regarder pour acheter un portefeuille de 30 francs, je l'aurais giflé. Le revers de la médaille. Pavillon, successeur, serait jaloux. Ils peuvent, mais je ne fais pas attention à eux. C'est sûr? Voyons, vous m'offensez un jour pareil. Il arracha la feuille de l'éphéméride pour la garder après avoir mis dessus leurs initiales enlacées. Comme plus tard, sur nos couverts. Chut, c'est trop, oh, c'est trop. Elle se pencha pour échapper au regard des passants et il cueillit encore un baiser. Elle le lui donna si ardent qu'il lui fut sûr à ce moment-là d'être aimé. À genoux devant elle, il en pleura de joie, tandis qu'elle lui caressait la joue un peu distraitement déjà. Pauvre homme, mais qui lui assurait des jours paisibles, Madame Robert Pavillon. C'était un avancement inespéré. Le père receleur s'était supprimé à la quatrième arrestation. La mère s'occupait de lingerie chez une parente. En effet, ce qui tenait d'une maison de rendez-vous. Elle-même avait figuré dans les revues sous le nom de Paul Lee. Elle avait connu la misère des garnis, l'horreur des nuits payées par des brutes. Ce Pavillon, successeur, tombait à point nommé dans sa vie. Au moment où elle doutait de son pouvoir, et quand elle regagna l'hôtel morne où elle logeait, elle emportait une promesse de mariage formelle.